Yo, il sera...
Oh. Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Audrey Guélou et Stéphane Crozat.
Bonjour à toutes et à tous. On est sur Graphite, donc pour aujourd'hui une émission qui se passe dans le cadre du cours WE01 à l'Université de Technologie de Compiègne. On va donc donner la parole à des étudiantes et à des étudiants pour présenter les travaux qu'ils ont réalisés ce semestre. Donc WE1 est un cours où on aborde les technologies du web, on fait un peu de théorie, un peu de pratique, un peu de HTML, de fonctionnement d'Internet, et on aborde également la dimension culturelle du web, par exemple, la façon dont c'est utilisé, des questions éthiques, économiques, ce genre de choses. Alors les étudiants et étudiantes ont notamment travaillé sur ces questions-là, ils ont réalisé des articles, des fiches de lecture, des interviews, et donc on a quatre groupes aujourd'hui qui vont venir nous présenter une synthèse de leurs travaux en direct à la radio. Alors, on va parler à 15h30, on parlera l'eutechnicisation du web, impact de la publicité. Vers 16h30, on parlera espace de discussion en ligne. Et vers 17h30, économie et écologie de l'attention. Mais donc, pour démarrer aujourd'hui, on va parler donc logiciel libre et décentralisation du web. Et pour cela, je suis donc dans le studio avec Stéphane Branly. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Sami Messaoud, bonjour.
Bonjour.
Et Evan Barillo.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. Eh bien, si vous êtes prêts, Stéphane, je vais te laisser introduire le sujet et démarrer. C'est parti, à toi.
Parfait, c'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler de décentralisation, centralisation, GAFAM et logiciel libre. Pendant notre intervention radio, ces termes vous seront définis, éclaircis et même approfondis. Pour être exact, notre sujet concerne la contribution des logiciels libres dans la décentralisation des services numériques. Nous avons découpé ce sujet en trois problématiques qui sont: comment les services numériques se sont-ils centralisés sur un faible nombre de gros acteurs? Comment les logiciels libres peuvent-ils contribuer à la décentralisation du web? Et enfin, les logiciels libres sont-ils suffisants? Je vais tout d'abord vous montrer la pertinence du sujet que nous traitons dans le cadre de nos études d'ingénieur. Mais vous verrez que vous aussi, auditeurs et auditrices, vous êtes plus que concernés par ce sujet. Aujourd'hui, les ingénieurs exercent leurs activités avec l'appui d'outils numériques. Par exemple, pour lire et rédiger des documents, planifier des réunions, faire des simulations, développer des logiciels libres. Alors même si les domaines d'ingénierie sont vastes, tels que l'environnement, la chimie, le bâtiment, l'informatique, la mécanique, le numérique y trouve toujours sa place. On dit que les ingénieurs sont à la fois outillés et outilleurs-outilleuses. Ils et elles sont doués de la théorie et de la technique. Ils et elles ont une place importante dans la configuration du monde numérique et de ses services proposés. Alors qu'Internet propose un maillage très dense et complexe décentralisé, les services accessibles disponibles sont quant à eux majoritairement centralisés. Pour vulgariser cette phrase complexe, on pourrait représenter cette situation par un réseau routier. Par exemple, vous êtes un client et vous avez besoin d'acheter un pot de peinture. Vous allez emprunter le réseau routier, comparable à Internet, qui est dit décentralisé. C'est-à-dire que si une route ou un carrefour est fermé, ce n'est pas grave car vous pourrez trouver un autre chemin pour aller à la même destination. Et votre fournisseur de service, c'est votre magasin de bricolage. Dans le cas d'Internet, c'est un serveur qui répond à votre requête. La centralisation pourrait s'illustrer par le fait que tout le monde voudrait aller à un seul magasin. Par exemple, Leroy Merlin, qui est un gros acteur. Nous avons alors un réseau décentralisé qui permet d'aller où l'on veut, mais pourtant pour chaque type de requête, nous nous centralisons vers un seul serveur. C'est exactement le problème que nous pouvons rencontrer dans le monde numérique. On y retrouve de grands acteurs états-uniens issus des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui répondent à nos demandes comme l'envoi de mails, connexion à un réseau social, achat sur Internet et qui, en plus de cela, détiennent une quantité astronomique d'informations privées. Écoutons un court extrait qui parle des GAFAM.
GAFAM, 5 lettres pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. En moins de 15 ans, ces 5 superpuissances numériques américaines sont devenues des acteurs incontournables de l'économie mondiale. La valeur en bourse des GAFAM pèse plus lourd que l'ensemble des entreprises françaises cotées sur le marché et le montant cumulé de leur trésorerie est plus important que le PIB de la Suède. Dans notre vie quotidienne, il est aujourd'hui impossible d'y échapper. Nos modes de communication, d'information, de divertissement et de consommation ont été bouleversés par ces entreprises. Grâce à elles, nous avons accès rapidement à une multitude de produits et de services. Les GAFAM disposent de moyens financiers colossaux et sont capables d'attirer les meilleurs talents pour rester compétitifs et créer de nouveaux besoins. Investissant massivement dans les technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets ou la robotique, les GAFAM se lancent maintenant dans des secteurs tels que la finance, la santé ou même l'automobile.
Donc c'est un extrait qui nous est issu de la vidéo « Les GAFAM » publiée sur la plateforme YouTube en septembre 2018 par la chaîne Cité de l'économie. Alors dans cet extrait, on dit « Impossible d'échapper aux GAFAM », eh bien nous allons voir et nous allons vous prouver le contraire. Il existe en réalité de nombreuses alternatives qui répondent aux mêmes besoins que ceux auxquels les GAFAM répondent, mais qui, en plus de cela, sont respectueux de la vie privée, plus transparents sur les algorithmes et qui peuvent être hébergés de manière décentralisée. Il y a d'ailleurs un site web qui liste toutes les alternatives au service des GAFAM. Je vous invite à aller voir switching.software et vous avez même la possibilité d'utiliser directement des alternatives qui sont hébergées par le collectif Chaton. Vous pourrez les retrouver sur entraide.chaton.org. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il existe des alternatives, mais que l'unique existence de ces alternatives aux GAFAM n'est pas suffisante. En effet, il faut aussi faire en sorte que cet écosystème soit connu et utilisé. Un rapport a été publié en janvier 2021 par We Are Social, qui est une agence créative sur le web et qui a utilisé des données de StatCounter, compagnie qui développe un outil de mesure des visites sur des sites web. Ce rapport montre que le moteur de recherche Google est utilisé à 91% en France, alors que pourtant il existe d'autres alternatives comme par exemple Quant ou DuckDuckGo. Vous pourrez trouver le rapport complet sur le site We Are Social, il s'agit du Digital Report 2021, les dernières données de notre état des lieux du digital dans le monde. L'ingénieur a donc un rôle à jouer car il ou elle définit les outils numériques qui peuvent être utilisés en entreprise avec son équipe. Mais qu'en plus de ça, il ou elle façonne ses outils, pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de l'informatique en l'occurrence. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les développeurs et les développeuses sont très favorables aux logiciels libres pour des raisons de stabilité, fonctionnalité, flexibilité, sécurité. L'ingénieur dispose d'une expertise et se doit aussi de la transmettre pour informer les utilisateurs et utilisatrices.
Merci beaucoup Stéphane pour cette première partie introductive du sujet. Alors tu nous as parlé des ingénieurs et du rôle qu'ils ont à jouer. J'ai une première question à te proposer, c'est que donc tu nous dis donc que l'ingénieur a un rôle à jouer car il définit les outils numériques qui peuvent être utilisés en entreprise avec son équipe. Je te cite presque mot pour mot. Est-ce que tu as commencé à te projeter dans ce rôle? Tu vas bientôt être, très bientôt je crois même être un jeune ingénieur, tu vas arriver dans une, peut-être une, imaginons hein, pour mon scénario, peut-être une petite entreprise, imaginons qu'elle soit pas très acculturée à ces questions-là, que par exemple elle utilise massivement les outils, disons Google pour collaborer. Comment est-ce que tu ferais? Est-ce que tu as commencé à imaginer quelle pourrait être ta posture? Est-ce que tu penses que c'est faisable? Est-ce qu'au contraire tu penses que ça va être difficile d'aborder ce genre de sujet? Est-ce que tu as commencé à te projeter un peu dans ce genre de questions?
Oui, j'y pense régulièrement, même déjà là pendant le cadre de mes études avec les associations. Et je pense que oui, c'est faisable. Après, s'il y a déjà une infrastructure en place, il va falloir faire une transition qui va être progressive. Après, s'il n'y a pas du tout d'infrastructure mise en place, là, c'est beaucoup plus simple de mettre en place des logiciels libres, puisqu'on a juste à les installer. Que si on doit faire une transition, il faut aussi habituer les utilisateurs à aller sur ce nouveau outil, faire en sorte qu'ils savent comment l'utiliser, etc.
Ouais, tout à fait. Hein, tu as raison. Donc c'est un des points souvent extrêmement problématiques, c'est cette logique de transition quand on a pris des habitudes, etc. Allez, peut-être une deuxième question. Imagine que, quel conseil tu donnerais à un ou une amie pour l'inviter à changer une de ses pratiques en faveur d'un site web alternatif, par exemple. Est-ce que tu aurais un conseil à donner?
Déjà, c'est si on veut aller sur du logiciel libre, c'est déjà faire de manière progressive. On va pas pouvoir changer du jour au lendemain notre usage d'Internet, des services proposés de manière radicale sur du logiciel libre. Donc il faut faire ça de manière vraiment progressive, donc changer les logiciels au fur et à mesure, se renseigner. Donc là, je vous ai cité deux sites qui vous aident pour faire cette transition. Donc on a Chaton qui propose directement des services qui sont directement hébergés. On a le site switching.software qui va aussi vous expliquer comment faire cette transition et qui va vous rediriger vers des autres solutions. Donc c'est vraiment faire cette transition de manière progressive et après normalement on s'habitue rapidement à ce nouveau type d'outils qui sont même très similaires à ce qu'on peut utiliser avec les GAFAM.
Et alors, est-ce que tu en aurais un à citer ? Là, c'est resté encore un tout petit peu abstrait. Si tu devais te mouiller un tout petit peu, voilà, tu dirais. Alors, évidemment, ma question n'est pas forcément pertinente parce que tu pourrais me répondre que ça dépend de la personne, de ce qu'elle fait, etc. Mais je sais pas. Prends en imagination quelqu'un que tu connais. Quel est le premier outil que tu lui conseillerais d'utiliser, par exemple, si elle voulait changer quelque chose sur son smartphone ou sur son ordinateur ?
Déjà, ne serait-ce que le navigateur d'Internet, on peut utiliser par exemple Firefox. Après, même pour communiquer, on a l'habitude, on va dire, d'utiliser Messenger, mais on peut utiliser d'autres messageries instantanées. On a par exemple Olvid, qui est une start-up et qui propose de communiquer avec un chiffrement. Donc, il y a d'autres alternatives qui sont possibles. Après, il faut aussi contribuer et faire en sorte que cette communauté s'agrandit pour qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs sur ces outils libres.
Ok, bah merci beaucoup à toi pour ces pistes, pour ces réponses. Je propose donc de passer la parole à Samy pour la seconde partie. Et donc tu vas continuer hein, sur ce fil et nous expliquer comment les logiciels libres peuvent contribuer à la décentralisation du web. À toi.
Dans le cadre de l'UVWE1 et notre thématique, la contribution des logiciels libres dans la décentralisation des services numériques, j'ai pu interviewer une personne qui a grandement contribué au développement des logiciels libres en France. L'interview a pu se réaliser sur la plateforme Jitsi Meet, qui est un service open source et gratuit de visio et audioconférence. N'importe qui peut auto-héberger une session. Dans notre cas, l'interview a pu être effectuée via donc, cette plateforme que l'interviewé m'a fait parvenir, donc un lien. Nous avons par ailleurs retranscrit à l'écrit l'intégralité de l'interview. L'audio et la transcription sont disponibles sur notre site web qui sera référencé depuis le serveur dédié à l'UVW1. La personne interviewée se nomme Loïc Dachary, il est informaticien et œuvre depuis 1987 pour l'utilisation généralisée des logiciels libres. Cette promotion du logiciel libre a débuté au sein de l'association FSF France, dont M. Dachary était le fondateur. La création de l'association en France est directement liée à celle de la FSF Free Software Foundation aux États-Unis en 1985. Ces deux associations sont liées et militent pour la même cause, à savoir la promotion du logiciel libre et la défense des utilisateurs. Elle se poursuit aujourd'hui au sein de l'April, Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, qui met en place des actions de sensibilisation comme des conférences grand public, des relais avec les médias, des opérations de défense contre des décisions politiques ou d'autres institutions qui peuvent venir au développement du logiciel libre. On peut trouver d'autres informations sur le site dédié www.april.org. Aujourd'hui, plusieurs autres plateformes, comme le collectif Chaton, permettent de rassembler plusieurs structures proposant des services en ligne libres, éthiques et décentralisés. A noter que l'April, comme cité précédemment, contribue largement à la proposition des services libres de par son statut de membre de Chaton, avec Chapril, avec le site, donc sa plateforme www.chapril.org. La majorité des questions posées avaient pour but d'en savoir plus sur le rapport qu'entretient une personne engagée dans un mouvement activiste lié au logiciel libre et son deuxième travail de développeur. Parmi les questions posées, l'une d'elles portait sur l'actualité. Dans le groupe Facebook UTC Smile, qui regroupe tous les étudiants de l'UTC, un étudiant a émis un sondage sur les élections présidentielles invitant les UTCiens à voter pour leur candidat via Google Form. Je vous propose d'écouter l'avis de Loïc Dachary sur ce sondage.
C'est dommage de fournir des données aux grosses entreprises. Bon, elles ont... surtout celles qui sont dont le modèle économique est basé sur la captation de données personnelles et leur monétisation. Donc c'est dommage de faire ça volontairement. C'est dommage parce que on peut faire autrement. C'est assez facile. C'est un peu la même démarche que de se dire, ben voilà, en bas de chez moi, il y a un magasin qui vend des... mettons des vêtements qui sont fabriqués de façon éthique, et j'ai un autre magasin où les vêtements sont faits dans des conditions de travail que je réprouve, et lequel je vais choisir. Et si les deux sont en bas de chez soi, les prix sont les mêmes, l'effort n'est pas...
Comme vous avez pu l'entendre, il existe plusieurs alternatives, et ce n'est pas ce qu'il manque en termes de logiciels libres. Le choix se base principalement sur des convictions et la conscience que les données que nous partageons sont utilisées au profit des grandes entreprises. Le reste de l'interview a porté sur le quotidien que peut avoir un développeur militant comme Loïc Dachary. Sans surprise, son travail tourne autour des logiciels libres avec une certaine liberté donnée par l'employeur à ses salariés. Plusieurs logiciels libres connus comme Thunderbird, Firefox ou LibreOffice sont largement utilisés dans son travail. Il est important de préciser qu'un salarié avec de telles convictions aura tendance à imposer à son client ses exigences en termes d'utilisation de logiciels. Le client, lui, souhaite utiliser un logiciel propriétaire pour communiquer avec un salarié, exemple de Zoom pour le service de visioconférence. En opposition, le salarié peut refuser et imposer au client d'utiliser un logiciel libre en guise de remplacement. Utiliser des logiciels libres moins performants que des logiciels propriétaires est un choix que plusieurs personnes ont fait et font actuellement. On peut prendre l'exemple du service de cartographie OpenStreetMap, qui est considéré comme l'alternative à Google Maps en logiciel libre. Des personnes préfèrent utiliser OpenStreetMap plutôt que Google Maps, malgré que celui-ci soit un peu moins performant en termes de calcul de trajet. Dans ce cadre-là, ce choix peut être largement justifié, car hormis cet aspect de calcul de trajet, OpenStreetMap permet à tous les utilisateurs de participer à l'évolution du service, avoir accès aux données et par conséquent rendre le service plus complet que d'autres logiciels privatifs. D'ailleurs, grâce à la collaboration rapide entre les utilisateurs, les mises à jour se font beaucoup plus rapidement sur OpenStreetMap, là où d'autres services prennent beaucoup plus de temps, dû au côté privatif et non libre. Leur réflexion à ces personnes qui souhaitent utiliser donc, les logiciels libres ne porte pas sur le fait que les logiciels peuvent être libres, mais les logiciels doivent être libres.
Merci à toi pour cette présentation. Alors j'ai envie de revenir un petit peu sur l'exemple que tu as pris lors de l'interview avec Loïc Dachary tout à l'heure. Donc l'exemple d'une association de l'UTC. Alors un peu comme j'ai fait précédemment, on va faire une petite expérience de pensée. On va imaginer donc une asso de l'UTC, par exemple, qui milite pour le climat et donc qui devrait être sensible aux questions de la décentralisation du numérique, hein, un peu aux questions éthiques. Comme le disait Loïc, on peut être sensible, par exemple, au fait d'acheter des vêtements fabriqués dans des conditions éthiques. Donc, de la même façon, on pourrait être sensible à un numérique éthique. Alors, donc, si on prend ce petit scénario, imagine que tu sois membre de cet asso ou que tu les rencontres. Comment est-ce que tu ferais ? Est-ce que tu as une ou deux pistes pour les convaincre qu'elle peut utiliser d'autres outils, par exemple à la place de Facebook pour organiser des événements ou, les suites bureautiques ou les agendas Google, etc. etc. Est-ce que tu as une ou deux pistes ?
Comme moi, par exemple, avant de suivre les cours de l'UVWE1, j'avais pas conscience que les logiciels libres existaient. Donc là, ce sera à peu près la même démarche, faire comprendre aux gens que les logiciels libres existent, expliquer leur fonctionnement, expliquer comment les GAFAM, les grosses entreprises, utilisent nos données, pas à bon escient. Et pourquoi pas faire une première expérience, se lancer dans l'utilisation des logiciels libres.
Ok, alors écoute, un peu aussi également comme j'ai demandé précédemment, alors soit dans ce scénario ou soit si c'est plus pratique pour toi avec un ami, une amie que tu te représentes en mentalement, quel conseil tu lui donnerais pour changer une de ses pratiques, au moins une, en faveur d'un site web alternatif ?
Alors précédemment, c'est un peu la même question. Ne pas se limiter à ce que l'on utilise quotidiennement, car on a appris à rechercher sur Google, utiliser Facebook et d'autres logiciels, services. Et pourquoi pas s'ouvrir sur d'autres logiciels, comme par exemple Stéphane l'a dit, le collectif Chaton, qui permet donc de rassembler plusieurs personnes qui partagent leur logiciel, leurs conseils. Et se rassembler et s'intéresser aux logiciels libres.
Ok, peut-être un exemple pareil. Est-ce que tu as un exemple de logiciel ou de service que tu conseillerais, donc soit à une asso, soit à une personne ?
Thunderbird, comme je l'ai dit, c'est un service de messagerie qui peut remplacer par exemple Gmail ou bien Hotmail, Outlook par exemple.
Ok. Donc utiliser, changer ses habitudes, ne plus utiliser un webmail comme Gmail, mais l'utiliser à la place un logiciel comme Thunderbird. Avec, alors à l'UTC, c'est assez facile, hein, puisqu'on a tous une adresse soit utc.fr, soit etu.utc.fr pour les étudiants. Donc on a la possibilité effectivement d'installer Thunderbird. Je pense que ça prend quelques minutes, tout au plus, et d'y installer la réception et l'envoi de ses mails. Et effectivement, en faisant ça, on n'est plus dépendant de l'usage, par exemple, d'un outil comme Gmail. Eh bien, je propose donc que l'on passe à présent à la troisième et dernière partie. Evan, si c'est bon pour toi, on fait un petit retour historique sur la centralisation du web.
C'est ça.
Eh bien, c'est parti.
Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine, le web se devait être un réseau décentralisé. Or, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où 6 entreprises représentent à elles seules, selon le rapport de l'ETNO, donc l'European Telecommunication Network Operation, où donc 6 entreprises représentent à elles seules 57% du trafic Internet mondial, Google et Facebook représentant à eux deux 36% du trafic. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis deux dernières décennies, nous observons une centralisation donc, du web autour de quelques gros acteurs parmi lesquels nous pouvons compter les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Cette centralisation s'explique en partie par le succès qu'ont rencontré ces compagnies très tôt dans leur développement, notamment grâce aux outils et ou services qu'elles proposent et améliorent au fil des années. Dans le cas de Google, par exemple, c'est son moteur de recherche Google Search, du coup lancé en 1997, qui a popularisé l'entreprise. Ce succès s'explique par le fait que le moteur de recherche de la firme de Mountain View proposait des résultats plus pertinents, plus précis et plus rapides que ses concurrents de l'époque, donc Yahoo, Infoseek, AltaVista, etc. Cette popularisation du moteur de recherche a permis à Google d'en faire une plateforme publicitaire importante, publicité que Google gardait exclusivement au format texte afin d'assurer un affichage des résultats toujours aussi rapide. L'argent généré par ce moteur de recherche a permis à Google de se développer en achetant d'autres entreprises proposant des services et ou outils innovants, tels que le système d'exploitation Android en 2005 ou la plateforme YouTube en 2006, mais également de développer ses propres filiales telles que Calico, filiale spécialisée dans le domaine de biotechnologie, ou encore X, anciennement Google X Lab, laboratoire de recherche à multi-projets, à l'origine donc de projets comme la Google Car, les Google Glass, etc. Il en va de même pour Facebook, Amazon, Apple et Microsoft qui ont connu aussi une forte augmentation de leur popularité couplée à une croissance économique rapide et exponentielle grâce à leurs services ou produits innovants. À titre d'exemple, la plateforme en ligne Amazon a vu son chiffre d'affaires mondial passer de 10,71 milliards de dollars en 2006 à 469,92 milliards de dollars en 2021. Elle est devenue le quatrième site web le plus visité de France derrière Google.com, Facebook.com et YouTube.com. Source donc Statista, mais également la cinquième plus grosse entreprise mondiale avec une capitalisation s'élevant jusqu'à récemment à 1 040 milliards de dollars. Oui. Ces cinq géants se sont donc démarqués assez rapidement au point d'être des acteurs importants, si ce n'est d'avoir le monopole dans leurs propres marchés respectifs. Donc ces marchés étant la recherche web pour Google, les réseaux sociaux pour Facebook, l'e-commerce pour Amazon, les ordinateurs et les smartphones pour Apple et les systèmes d'exploitation pour ordinateur pour Microsoft. D'une part, car ces entreprises proposent toujours des services et produits innovants et qui répondent aux demandes de plus en plus complexes de leurs innovateurs, donc plus de rapidité, plus de puissance, plus d'accessibilité, mais également parce qu'elles profitent de leur forte croissance économique pour acheter toute entreprise qui leur permettrait de continuer d'innover dans les secteurs des technologies du web. Exemple, rachat d'Oculus pour la réalité virtuelle par Facebook en 2015 ou le rachat de Nest Lab, devenu Google Nest par Google en 2014, société spécialisée en tout ce qui concerne la domotique. C'est ainsi que le secteur de l'Internet et plus particulièrement celui du web s'est retrouvé à être monopolisé par un nombre d'acteurs restreints.
Que signifie donc le logiciel libre? Je peux présenter le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que chaque utilisateur est libre d'utiliser et de changer et d'adapter le programme en solitude ou en combinaison avec les autres. Égalité parce que à travers le logiciel libre, personne ne soumet à personne. Personne n'a de pouvoir sur personne à travers un programme libre. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. C'est donc la manière éthique et juste de distribuer un programme.
Ce que vous venez donc d'entendre, c'est un extrait de 59 secondes de la conférence de 2011 « Logiciel libre et droits de l'homme » donnée par Richard Stallman, le créateur du projet GNU, un système d'exploitation constitué uniquement de logiciels libres. Il est considéré comme l'initiateur du mouvement du logiciel libre et a été le président de la FCF, Free Software Foundation, de 1985 à 2019. La conférence est disponible YouTube sous la licence Creative Commons CC BY ND, donc attribution et pas de modification. Ce qui me mène directement à ma seconde partie qui concerne « Est-il possible de décentraliser le web sans l'utilisation de logiciels libres ?» Donc afin de rendre ça au web sa forme d'espace décentralisé, il faut permettre à l'utilisateur d'utiliser des logiciels et des plateformes libres, non centralisées. Et pour ce faire, les logiciels libres donc, sont une alternative plus que sérieuse. Mais qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Un logiciel libre est considéré comme un logiciel donc, est considéré comme libre par la FCF, donc Free Software Foundation, ou Fondation pour le logiciel libre, à partir du moment où il respecte les quatre libertés suivantes. Liberté numéro 0, la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages. Liberté numéro 1, la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins. Liberté numéro 2, la liberté de redistribuer des copies du programme, ce qui implique la possibilité eh bien, de donner ou de vendre des copies. Liberté numéro 3, la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ses améliorations au public pour en faire profiter toute la communauté. En résumé, l'utilisateur a le droit d'exécuter, de copier, de distribuer, de modifier et d'améliorer le logiciel. Mais pourquoi faudrait-il favoriser l'utilisation des logiciels libres par-dessus celle des logiciels propriétaires ? Tout simplement parce que dans le cas d'un logiciel propriétaire, personne, à part le propriétaire, n'a le droit d'installer de serveur pour le logiciel en question, ce qui cause irrémédiablement une centralisation avec la présence d'une poignée, voire d'un unique serveur pour tous les utilisateurs. A contrario, dans le cas des logiciels libres, cela permet à chaque utilisateur d'installer, s'il le souhaite, son propre serveur, ce qui entraîne une multiplication du nombre de serveurs disponibles et par conséquent une décentralisation du web. Il existe d'ailleurs aujourd'hui une alternative libre et décentralisée pour la plupart des logiciels propriétaires. Pour le réseau social Twitter, il existe le réseau social Mastodon. Dans le cas des applications web, Google Docs ou Microsoft Word Online, il existe Etherpad. Pour la plateforme de transfert de fichiers WeTransfer, il utilise la plateforme Luffy. Et pour la messagerie instantanée Messenger, il existe les messageries Signal ou Mattermost. Malheureusement, les GAFAM semblent suivre un comportement inverse, proposant des écosystèmes de plus en plus complets et centralisés. Par exemple, dans le cas de Google, l'entreprise jusqu'alors spécialisée dans le domaine du web avec son navigateur Google Chrome et ses applications telles que YouTube ou la suite de logiciels Google que l'on connaît tous, Google Docs, Google Keep, etc., propose depuis maintenant quelques années ses propres objets connectés avec sa série de smartphones et montres connectées bientôt Pixel et ses enceintes connectées Google Home, Google Nest, ainsi que ses propres ordinateurs portables à but éducatif ou professionnel, les Google Chromebook, ainsi que ses propres outils de travail avec le service Google Workspace. La firme de Mountain View s'est même imposée dans le secteur automobile avec son application Android Auto ou plus récemment son système d'exploitation Android Automotive, à l'instar d'Apple et son outil Apple CarPlay. Le but de Google est simple, proposer un écosystème complet, capable de vous suivre tout le long de votre vie active et dont vous n'aurez pas besoin d'en sortir. Il en va de même pour Apple qui développe depuis quelques temps, après avoir complété son offre matérielle d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones et d'objets connectés divers, son offre logicielle proposant maintenant un service de cloud, Apple iCloud, une plateforme de vidéo à la demande, Apple TV+, des logiciels d'édition de documents, Apple Page, un service de paiement sans contact, Apple Pay, et beaucoup d'autres. La firme de Cupertino s'est même fait la place dans le secteur du fitness avec son service Apple Fitness Plus. Son but est donc similaire à celui de Google, pouvoir proposer un écosystème centralisé où toutes vos données coïncident au même endroit et qui vous permet de vous suivre tout le long de votre vie active. Ainsi, dans un monde où les plus grandes entreprises innovatives ont pour seule volonté de centraliser davantage le web autour d'elles, l'intervention des logiciels libres est nécessaire pour permettre le retour du web à l'état décentralisé dans lequel il était à sa création.
Merci beaucoup à toi pour ce panorama. Alors, il y a plein de questions qui sont arrivées sur notre outil de discussion Mattermost, que donc tu as cité tout à l'heure. Écoute, je vais t'en proposer d'en prendre quelques-unes. Il y en a auxquelles on a en fait déjà un petit peu répondu, donc on pourra peut-être répéter. Peut-être la première, en effet, tu as déjà répondu. Hein, mais Zoé nous demande si les logiciels libres sont le seul moyen de contrer le monopole des GAFAM. Alors, je vais te laisser compléter. J'ai envie de dire, c'est souvent pas nécessaire, on l'a dit un petit peu. Pardon, c'est souvent pas suffisant, on l'a dit un petit peu. En revanche, c'est nécessaire. Tu peux donc nous répéter rapidement pourquoi ?
Tout simplement parce que la volonté des GAFAM est donc de de centraliser leurs services. Alors certes, ça a ses avantages. Par exemple, avec mon compte Google, mes données coïncident entre mon Google Drive, je peux y accéder d'un téléphone à un autre ordinateur, à une tablette. Mais ça a l'inconvénient du coup que je prête, voire que je donne mes données à ces entreprises qui donc en profitent pour les collecter. Et ça a également des gros risques en cas de panne de m'empêcher d'accéder à mes données. Par exemple, on a pu le voir récemment avec les pannes majeures de Google en 2019, je crois, et de Facebook en 2020 ou 2021, où là, pendant quelques heures, leur service était complètement hors service, du coup, et personne ne pouvait accéder aux données qu'ils veulent, et que ça a impacté même d'autres services qui dépendaient, par exemple, des applications Google. Je sais que Google propose ses services en tant que serveur, du coup, et il me semble que même le réseau Discord a été impacté, du coup, car impossibilité d'accéder à la base de données Google qu'ils utilisaient.
Oui, très bien. Donc effectivement, tu nous as rappelé les enjeux en quelque sorte. La question de porter sur le rôle des logiciels libres, ce que tu as dit précédemment, c'est aussi qu'ils sont nécessaires, donc je répète, pas forcément suffisants, mais pour contrer le monopole des GAFAM, tout simplement parce que, comme tu l'as dit, uniquement pour les logiciels libres, j'ai la possibilité de les copier, de les installer sur un serveur. Donc par exemple, si je veux installer une messagerie Mattermost, je peux le faire parce que le code est disponible, je peux donc télécharger ce logiciel, l'installer sur un serveur, le rendre disponible. En revanche, par exemple, je ne peux pas télécharger et installer une copie de Facebook, j'ai pas le droit, j'ai pas accès au code. Donc c'est pour ça que le logiciel libre est en quelque sorte nécessaire. Je vous propose de continuer avec, il nous reste un petit peu de temps, quelques autres questions. Samy et Stéphane, sentez-vous libre également de demander la parole selon vos envies. Je regarde un petit peu, peut-être des questions qui reviennent un petit peu avec ce dont on a parlé au début. Stéphane, je crois que tu avais déjà répondu, du coup peut-être on peut faire un complément, mais que peut faire une Elisa demande que peut faire une entreprise donc pour mettre en place des logiciels ou des services libres. Est-ce que tu veux nous redonner quelques éléments autour de ça?
Oui, ce serait déjà éduquer, faire en sorte que les employés soient au courant qu'il y a des alternatives disponibles, faire en sorte qu'ils puissent être en capacité de les utiliser, donc les former pour ces logiciels libres qui peuvent être différents de ce qu'on a l'habitude d'utiliser en logiciel issu des GAFAM. Et après, faire en sorte de mettre en place ces infrastructures pour les développer dans les entreprises.
Ok, je rappelle que tous les contenus de WE1 sont sous licence libre. Donc si demain, dans votre entreprise ou pendant votre stage, vous avez envie de faire des formations en utilisant les supports de WE1, vous pouvez le faire. Donc, ça peut être par exemple un moyen. Cassandre demande si il est possible... j'aime bien cette question, on va voir quel est votre avis, moi j'ai le mien mais je vous laisse vous prononcer d'abord. Est-ce qu'il est possible de se passer des services des GAFAM sans aucun impact sur notre utilisation quotidienne du numérique? Donc est-ce que si demain on passe uniquement sur des logiciels et services libres, est-ce qu'à votre avis ça n'a aucun impact? Est-ce que dans votre expérience ou dans ce que vous avez lu, peut-être dans les interviews que vous avez fait, quelqu'un veut prendre la parole?
Je vais le faire du coup. Se passer complètement des outils des GAFAM, c'est un peu pour moi une utopie, puisque malheureusement c'est devenu impossible. On aura beau décentraliser, utiliser les logiciels libres, un réseau social libre ne pourra jamais égaliser la popularité d'un Facebook ou d'un Twitter. Malheureusement c'est vrai. Mais par contre, dans le cas d'autres logiciels, comme les messageries instantanées WhatsApp, là il est possible de se passer des services des GAFAM en utilisant du coup Signal ou Telegram. Mais donc oui, le plus gros problème qu'on a, c'est les réseaux sociaux où la somme immense les milliards d'utilisateurs présents sur YouTube, Facebook, Instagram et plein d'autres, on ne pourra jamais égaliser ça avec les logiciels libres.
Ok, en effet, je pense que dans la question de Cassandre, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a demandé si on pouvait se passer des services des GAFAM. Donc là, moi, je vais répondre oui, puisque je suis certain que, par exemple, si on demandait à Loïc Dachary, je suis presque certain qu'il n'utilise aucun des services des GAFAM. En tout cas, il existe, je ne vais pas parler à sa place, il n'est pas là pour confirmer, mais en tout cas, je rencontre dans le milieu militant en général, des gens qui ont effectivement opéré une rupture totale. En revanche, non, effectivement, ce n'est pas sans impact sur notre notre utilisation. Comme tu l'as souligné, par exemple, eh bien, si on décide de n'utiliser aucun média social, aucun des grands médias sociaux propriétaires, eh bien, on ne pourra pas être aussi connecté que si on décide de le faire. En revanche, je me permets juste, quand tu dis « ce ne sera jamais possible », ça me paraît une prévision sur le futur un petit peu forte. Je fais partie des gens qui pensent que si, peut-être un jour, ça changera. Mais en effet,
ça sera un jour possible, mais toutes les plateformes ne seront pas aussi connectées que le grand Facebook, par exemple. Ça sera plus beaucoup d'îlots, chacun de leur côté, qui ne sont pas forcément interconnectés tous entre eux. À l'instar d'un grand Facebook, comme j'ai dit, où tout le monde peut accéder à tout.
Même si on a vu que les protocoles de fédération, par exemple, à travers le Fediverse, permettent de reconnecter ces îlots. Néanmoins, je te donne raison, il restera probablement des fonctionnements moins globaux. Et donc ça aura un impact sur notre utilisation pour répondre à Cassandre. Après, quant à savoir si c'est souhaitable ou pas, pourquoi pas après tout. Peut-être je vous propose une dernière question en deux, puisqu'il y a Lucie qui demande s'il y a des limites au logiciel libre, et Baptiste qui nous dit que les logiciels libres ont été décrits comme alternatives, parfois moins performantes que les logiciels propriétaires et ceux des GAFAM. Donc voilà, est-ce que vous avez là quelques éléments quelles limites effectivement vous voyez au logiciel libre? Quelque part, Evan, tu viens d'en énoncer quelques-unes sur le caractère plus potentiellement fragmenté, par exemple des différents serveurs qui permettent pas de mettre tous les utilisateurs au même endroit. On a vu que parfois ça pouvait être un peu moins performant. Il y avait aussi une question sur est-ce qu'à un moment, c'était l'autre question, la question de Robert qui va aussi bien ensemble. Est-ce que on peut sur le long terme avoir des logiciels libres qui ne sont pas portés par des acteurs privés? Allez, donc je vous mets ces trois questions en une, je vous laisse éventuellement porter des réponses. Donc un, quelles sont les limites? Deux, comment est-ce qu'on peut les rendre plus performants lorsqu'ils ne le sont pas? Et trois, est-ce qu'il est souhaitable ou nécessaire que des acteurs privés s'en emparent à chaque fois? Est-ce que vous avez des éléments? Des questions un peu ouvertes.
Alors moi, j'ai une réponse pour la question 2, comment les rendre plus performants. Et du coup, ma réponse, ce sera tout simplement soit en les améliorant nous-mêmes ou en donnant nos retours, nos avis sur les personnes qui les ont développées. L'avantage du coup du logiciel libre, c'est que tout le monde peut l'améliorer et y participer. Et donc, plus de personnes utiliseront les logiciels libres, plus ils pourront être améliorés.
Ok, super, en effet, y a la possibilité pour chacun de contribuer. Vas-y, tu veux ajouter quelque chose? Vas-y.
Non, c'est juste pour dire que les logiciels libres aussi sont en constante évolution. Donc ça demande aussi, comme l'a dit Stéphane, des personnes qui doivent savoir les utiliser. Donc ça demande un gros travail de formation pour les personnes qui souhaitent utiliser les logiciels libres.
Contribuer aux formations, c'est aussi une possibilité.
À titre d'exemple, pour la question 2, j'aimerais bien citer le moteur 3D Blender, du coup, qui j'ai eu jusqu'à récemment. Donc c'est un moteur libre, mais qui n'était pas utilisé, tout simplement puisqu'il avait une interface graphique, on peut se le dire, hideuse et impraticable. Mais depuis récemment, ils ont fait une mise à jour, du coup, qui modernise cette interface et la rend beaucoup plus intuitive. Et Blender a été propulsé à l'un des moteurs 3D les plus populaires, notamment puisque du coup, sa nouvelle interface est incroyable, mais en plus, comme c'est un logiciel libre, on retrouve énormément d'extensions qui permettent de faire des modifications sur le logiciel et d'ajouter des options en plus.
Merci beaucoup, Evan, de cette dernière contribution. J'ajouterai moi à la question, est-ce que tous les logiciels libres ou tous les services libres doivent être portés par des acteurs privés? Alors, ça dépend ce qu'on entend par acteurs privés, mais en tout cas, si derrière, on entend grosses entreprises, je sais pas, il y a un site qui est pas mal utilisé, qui est géré juste par une asso et qui fonctionne pas mal, non? Vous en avez entendu parler? Wikipédia, non, ça vous parle? C'est un exemple aujourd'hui de service massivement utilisé qui rend un immense service et qui n'est pas porté par une entreprise multimilliardaire. Sauf si vous avez un dernier mot de la fin. Je vous dis au revoir. On dit au revoir à tout le monde. Merci à vous de votre participation.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Et puis peut-être à une prochaine.
Upload UTC, l'Université populaire du libre. Ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC avec les étudiants de WE01.